RMC, quand Brigitte Lahaie fait son show, c'est le Lahaie Night Show.
Pour notre love coaching, c'est Trinidad, Fatima, Aïd Bounois et Christophe Médici qui vont vous conseiller. Alors on est avec quelqu'un, on s'aime, on n'a absolument pas envie de le quitter, mais on considère que quelque part on n'a peut-être pas assez de liberté, on a peut-être envie de voir un peu plus ses amis, on a peut-être envie de pouvoir participer plus à une passion, enfin bref. Pas simple de dire mon chéri, tu me colles un peu trop, laisse-moi plus de place. C'est pas, ça peut être assez mal vécu. Et pourtant, c'est indispensable d'avoir un peu de jardin secret et de liberté, non?
Moi, c'est difficile de conseiller parce que moi, je suis extrêmement libre et je pourrais pas vivre avec quelqu'un s'il ne me laissait pas cette liberté. Donc, je sais pas comment conseiller, sinon dire.
L'idéal, c'est dès le départ, garder cette zone de liberté, ça c'est sûr. Mais très souvent, et surtout les femmes d'ailleurs, elles sont amoureuses et elles sacrifient tout, si je peux dire.
Et elles changent. C'est-à-dire, ça allait au départ, et puis c'est au fur et à mesure où elles en ont besoin. Donc, dans ces cas-là, il y a un changement. Imaginez, vous changez. Enfin, vous l'avez déjà choisi dès le départ. Moi, je pense pour, plutôt que demander, c'est donner à l'autre cette liberté. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais j'en veux pas, ta liberté.
Mais s'il en veut pas.
Je vais être aliéné, moi.
L'encourager à lui faire des choses comme ça, pendant qu'il fait des choses, nous aussi. C'est-à-dire l'encourager à avoir des activités, à voir ses amis.
Ça peut
comme
être une piste. Voilà. Ça peut marcher.
Comme ça peut marcher. C'est-à-dire, toi, tu vois tes amis, et pendant ce temps-là, moi, je vois les miens. Si c'est un couple un peu fusionnel qui passe cette transition. Moi aussi, je suis très libre, donc j'ai choisi la personne qui était comme moi. Donc pour qui c'était pas une souffrance, parce qu'il y a des gens, imposer notre liberté à quelqu'un qui a besoin d'un couple fusionnel et tout ça, ça peut être très
Alors je pense qu'il faut peut-être commencer par des petits moments de liberté, et tout en étant très prévenant, c'est-à-dire
pédagogue.
On peut, par exemple, si on décide d'aller passer une après-midi avec une amie pour faire du shopping, tout simplement, il n'y a rien d'alarmant à ça. Ne pas hésiter à peut-être lui envoyer un SMS ou l'appeler pendant cet après-midi pour qu'il n'ait pas l'impression que tout d'un coup il est abandonné, parce que c'est ça qui est compliqué.
Et donner une heure.
Oui, tout se joue dans le couple.
Oui, c'est très précis et très précis sur les moments de liberté.
Tout se joue dans l'axe confiance-contrôle, en fait. T'as des couples comme ça où on est dans le co-contrôle avec en plus un rêve de mythe de la transparence auquel je crois pas du tout. Je crois que c'est n'importe quoi, ce mythe de la transparence. Et c'est pas pour ça qu'on doit être infidèle ou pas, c'est pas le problème, mais on doit tout se dire. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? D'abord, on peut jamais tout se dire. Par contre, je crois vraiment à ces deux axes, contrôle ou confiance. Si tu me fais confiance, moi je te fais confiance, à partir de ce moment-là, on peut générer de la liberté dans le couple. Sinon,
s'il n'y a pas de confiance,
que ce soit une prison, un couple, je veux dire,
mais une fois qu'on est dans
ce type d'histoire, comme dit Brigitte, c'est l'idée d'accepter. Le seul moyen, de toute façon, c'est de rassurer l'autre.
Et oui.
Voilà. Même si on a l'impression que c'est infantilisant, on va dire, certains disent, je vais pas donner l'heure. Si ça rassure, ça peut être un moyen de passer doucement à autre chose.
La scène du film Infidèle. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, sans être drôle, c'est que les deux acteurs étaient mariés à l'époque et ils jouaient à ça, à se dire, c'est évidemment Alexandra Lamy et Jean Dujardin. Dans le film Infidèle. À un moment donné, ils sortent, ils ont passé toute une soirée chez un couple ami, le couple Lelouch d'ailleurs, à dire oui, est-ce que vous êtes libre et vous êtes libre comment? Comment vous laissez? C'est dingue, parce qu'ils rentrent à la maison et se passe une scène entre deux. À l'époque, ils étaient mariés, c'est pas piqué des hannetons. Et ils vont lui dire alors maintenant, t'es fidèle, t'es pas fidèle, comment tu me laisses libre ou pas? Et ça finit par une histoire horrible. Et en fait, ça clash et ça génère une scène de ménage horrible. Bon, maintenant, ils sont plus ensemble, Alexandra Lamy et Jean Dujardin. Mais à l'époque, ils étaient acteurs dans le film et ils étaient ensemble. Et c'est quand même très fort, parce qu'il se pose la question dont on parle là, Brigitte. C'est-à-dire, est-ce que tu me laisses libre? Oui, mais tu m'as... Alors voilà, la vraie question,
mais
elle
déjà,
est là.
Enfin,
tu m'as déjà trompé ou pas?
Ouais, mais ça...
C'est ça le truc.
C'est personne n'appartient à personne.
Là, Trinidad, vous dites vos désirs, est-ce que vous arrivez à générer dans un couple? Maintenant, beaucoup de gens qui nous écoutent savent que un des grands thèmes de la scène de ménage, c'est qui trompe l'autre? Est-ce que tu m'as déjà trompé? Est-ce que tu es d'elle ou pas? La jalousie et le contrôle.
On n'en est pas là.
Voilà, se promener, aller voir un ami.
On a l'impression que tu parles un peu de lui, là.
Je sais pas. Là, c'est du basique, c'est quelqu'un qui veut même voilà partir l'après-midi ou même des fois c'est les hommes qui veulent aller au foot avec leurs amis et des femmes très possessives même dans l'autre sens.
Ah, vous voyez, vous parlez de possessivité, Fatima.
Oui,
il y a bien l'histoire derrière.
Oui, mais c'est pour ça qu'on peut rassurer et puis peut-être pas en parler mais faire. C'est-à-dire à la place d'avoir un grand débat sur laisse-moi libre et tout ça, mais juste faire avec quelque chose de concret, comme ce que tu disais, voilà, on propose une petite sortie à tel moment et puis tout doucement. Faire les choses, mettre devant le fait accompli d'une certaine manière.
Je ne m'éloigne pas de toi, je me rapproche de moi.
C'est oui, c'est beau, ça.
C'est très joli.
Oui, mais là, on parle de gens matures.
On va rester là-dessus, c'est très joli.
C'est très bien. Et puis, on va évoquer maintenant les hormones qui ont un impact, évidemment, sur notre sexualité. C'est Stéphane que vous allez entendre, qui manquait de testostérone. Et Linda, elle, avait vu la modification de sa libido après la prise de pilule. Et nous étions avec Christian Jamin. Et justement, on va savoir si tous les hommes sont esclaves de leur testostérone.
RMC, tout ce que les femmes se disent entre elles, c'est dans le Late Night Show.
Avant tout, il faudrait expliquer ce que c'est qu'une hormone, parce que je suis sûr que personne ne sait.
Mais vous êtes notre docteur hormone, Christian.
Une hormone, c'est quelque chose de naturel. C'est un message chimique qui permet à un endroit du corps de communiquer avec un autre. Donc les hormones, c'est pas le diable, c'est la vie. Donc on communique de deux façons, soit avec les nerfs, c'est une communication électrique, soit avec des hormones, c'est une communication chimique.
C'est ça, d'accord.
Donc y a deux types d'hormones. Il y a les hormones qui servent à remplacer une hormone défaillante, vous avez une insuffisance.
Comme après la ménopause par exemple.
Voilà, ou une défaillance de la thyroïde, on vous donne une hormone qui est exactement la même que celle que vous fabriquiez, donc il n'y a pas de risque à partir du moment où on donne la bonne. Et puis il y a des hormones qui sont des leurres, qui permettent de...
Alors attendez, je reprends quand même sur ce que vous venez de dire. Pas de risque, certes, je vous entends bien et moi je suis d'accord avec vous puisque je suis votre disciple, Christian Jamin. Mais on entend sans cesse des informations qui disent il faut pas prendre de traitement hormonaux substitutif après la ménopause parce qu'il y a des risques. On entend que la pilule, qui est une hormone, peut donner des cancers. Donc je peux pas vous laisser dire sans reprendre qu'il y a pas de risque.
Je parlais... Il n'y a aucun risque possible, par exemple, quand on parle de thyroïde, puisqu'on remplace quelque chose qui manque. Alors, pour traiter la ménopause, il y a une petite nuance, c'est qu'on donne des hormones naturelles, sans risque, sauf qu'on les donne pas à l'âge où, normalement, on en a. Ce qui veut dire que ce à quoi on doit réfléchir, ça n'est pas à l'hormone elle-même, mais est-ce qu'on modifie quand même quelque chose de la nature, et est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Donc là, il y a une modification. Et puis la pilule, alors c'est la deuxième catégorie d'hormones, c'est des hormones modifiées qui servent justement à modifier le fonctionnement hormonal normal.
Naturel, oui.
Et donc là, on est dans un autre débat. Et effectivement, là, il faut prouver qu'on ne fait pas de mal. Et les travaux sont faits pour ça.
Bien sûr. Et alors, j'ai lu pour préparer cette émission, donc les hommes, ils sont dominés par leur testostérone, et j'ai lu que le stress était un ennemi numéro un de la testostérone. Donc ça explique pourquoi quand un homme a eu une journée très très compliquée au boulot, le soir, il peut pas baiser, quoi.
Il y a aussi probablement des facteurs psychologiques, c'est parce qu'il a peut-être aussi la tête ailleurs, il a été martyrisé dans sa journée.
Oui, c'est vrai qu'entre la tête et
la queue,
vous n'arrivez pas à faire
on ne peut pas faire fonctionner les deux en même temps. Alors oui, le stress fait sécréter une autre hormone qui s'appelle la cortisone ou le cortisol. Et cette hormone, qui est l'hormone du stress, alors, quand elle est produite en excès, eh bien, met le testicule
elle inhibe,
au repos.
Oui, elle inhibe l'autre.
Et donc, il y a effectivement une incompétence entre le stress chronique et une sécrétion normale de testostérone.
Une bonne libido.
Voilà.
Mmh. Et bien justement, tiens, Stéphane est avec nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour Brigitte et bonjour Christian.
Bonjour Stéphane.
Voilà, merci de me recevoir sur l'antenne. Alors moi c'est un petit peu particulier, enfin me semble-t-il. J'ai 41 ans tout juste et à l'âge de 40 ans, on a décelé une baisse anormale de ma testostérone. Donc vraisemblablement, j'ai le taux de quelqu'un qui doit avoir, a priori de ce que m'a dit l'endocrinologue, quelqu'un qui a 80 ans. Donc j'ai quasiment pas de testostérone. Alors comment ça s'est décelé? Effectivement, dans un premier temps, par une libido très réduite, et puis par une grosse fatigue, l'envie de dormir tout le temps, et l'humeur qui est dérangée au quotidien. Donc aujourd'hui, ma question, elle est, est-ce que, donc j'ai des injections de testostérone toutes les 3 semaines, depuis le mois de juillet, est-ce que c'est irrémédiable déjà? Est-ce que ça peut revenir dans un premier temps? Et la deuxième question, quelle est la conséquence réelle de d'injection de testostérone, puisque a priori il y aurait une activation de la prostate qui pourrait déclencher des cancers?
Bon, vaste question, il y en a plusieurs. D'abord, d'où ça vient? Alors, je peux pas répondre évidemment pour votre cas particulier. Dans toutes les hormones, il y a la commande qui en général vient d'une glande qui s'appelle l'hypophyse, qui est dans la tête. Et puis il y a la glande, ce qu'on appelle la glande endocrine elle-même, en l'occurrence le testicule, qui fabrique la testostérone. Donc, quand il y a un déficit, il faut savoir si ça vient de la commande qui est en panne ou de l'effecteur qui travaille pas bien.
Vous avez peut-être une femme casse-couille.
Non, j'ai un homme casse-couille.
D'accord, bon, c'est pareil, hein.
Oui, c'est pareil.
Donc voilà. Donc en fait, la cause, il faut. Est-ce que c'est réversible ou pas? Ben, ça dépend de la cause. Deuxièmement, c'est quand même pas fréquent votre histoire, et il faut bien faire attention. Souvent, il y a des prises de médicaments qui peuvent perturber la sécrétion de testostérone, et il faut être sûr que c'est pas quelque chose de transitoire lié à un traitement en cours. Alors quant aux conséquences, alors. Bien évidemment, si on est un peu finaliste, l'homme est fait pour vivre avec de la testostérone, et quand il en a pas assez, on pense que c'est pas bon pour la santé. On est même sûr que c'est pas bon pour la santé quand ça manque trop. Après, est-ce que c'est mauvais d'en prendre? Eh bien, si c'est juste pour substituer au même niveau que ce que vous auriez dû avoir, non, il peut pas y avoir de risque. Ce qui est très dangereux avec la testostérone, c'est quand on en prend pour faire de la compétition sportive, par exemple, le dopage. Parce que on ne prend pas la bonne dose, c'est ce que je disais en introduction.
Mais c'est ça, on en prend trop.
Il faut pas confondre. Alors je vais utiliser des mots savants. Substitution, c'est remplacer avec et les doses pharmacologiques, c'est pour traiter quelque chose. Et là, les risques ne sont pas les mêmes.
D'accord. Moi, en tout cas, c'est un substitut et qui vraisemblablement date depuis un petit moment, puisque les premières conséquences sont des maladies cardiovasculaires de ce manque de testostérone, puisque en fait j'ai mes artères qui sont pour la plupart déjà bouchées, puisque vraisemblablement ça joue aussi sur le cholestérol, le manque de testostérone, et donc j'ai déjà des premières conséquences de au niveau de la santé, quoi.
Tout cela est vrai. C'est bien.
Linda, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Linda, vous avez 33 ans et vous voulez nous revenir sur la pilule et la libido.
Tout à fait. Bah, c'est simple, moi j'avais la pilule depuis au moins une quinzaine d'années, et j'ai eu 2 grossesses à 3 ans d'écart entre les deux, et plus de libido, plus rien. Et donc ma sage-femme m'a parlé d'un stérilet, donc sans hormones, et c'est vrai que tout est revenu à mes 18 ans, donc c'est vrai que je voulais au moins en parler, puisque je pense qu'il y en a. Je ne dois pas être toute seule, donc c'est pour ça. Je voulais vous en parler, et puis s'il y en a qui avaient le problème d'en parler, et puis voilà.
Le changement de contraception, oui, en effet, a souvent un effet négatif ou bénéfique sur la libido des femmes. Ça,
c'est un vieux serpent de mer. Ça fait des années et des années qu'on se pose la question du rapport entre la pilule et la libido. Et puis en plus, ce qui est très bizarre, c'est que ça dépend des pays. Il y a des pays, par exemple en Allemagne, où c'est un sujet qui intéresse. Et c'est vrai qu'en France, ça intéresse un peu moins. Mais c'est vrai aussi que les interactions entre le désir de grossesse, la prise de pilule, la libido et un certain nombre de choses sont toujours extrêmement compliquées à analyser.
Ben oui, mais ce que je trouve dommage, c'est que personne n'en parle. Donc,
Nous, Linda.
Oui, vous êtes les seuls, donc c'est ça le problème. Et moi, si ma sage-femme ne m'avait pas dit, il y a le stérilet, j'en serais toujours à la même période et mon conjoint pareil. Donc, c'est dommage. Donc,
Vous avez raison, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que le fait d'en parler, ça inquiète, et si ça inquiète, ça augmente le trouble. Donc, il est tout à fait légitime que quand quelqu'un se plaint d'un trouble de la libido, on discute avec lui éventuellement de modifier sa contraception. Mais si on commence à dire que la pilule diminue la libido, eh bien, oui, ça va réellement la diminuer. Ça s'appelle un effet nocebo.
Bah, oui, oui.
Exactement.
Ouais, mais bon, c'est vrai que...
Donc nous, on va dire la pilule augmente le désir. Hein. Voilà, vous avalez votre pilule et dedans, il y a un petit peu de désir qui rentre. Voilà, prenez la pilule, il y aura plus d'IVG. Voilà. Hein.
Ouais, non,
ils ont,
oui.
Mais ils ont rien compris au gouvernement hein, pour faire des bonnes pubs. Bon, ben, ça vous redonne pas envie de prendre la pilule pourtant.
Ah non, pas du tout. Non, non, c'est comme
ça. Ne changez rien, alors, ne changez rien.
Ah non, c'est clair.
Changez surtout rien. Ça a l'air de marcher comme ça. C'est le principal.
Oui.
Merci Linda. Mais moi, ça m'intéresse quand même ce que vient de dire Linda, parce que c'est quelque chose que j'entends de plus en plus. Il me semble qu'actuellement, dans l'archétype collectif, la pilule a un effet justement nocebo sur le désir, sur les femmes, comme si quelque part, alors que c'était une invention extraordinaire, et je crois que toutes les femmes qui ont plus de 50 ans aujourd'hui en sont conscientes, mais les jeunes femmes aujourd'hui ont une sorte comme ça de rejet de la pilule. C'est étonnant, comme si notre archétype de femme qui veut à tout prix avoir des enfants rejetait le moyen de contraception le plus génial qui n'a jamais existé.
Mais il faut dire que on a quand même été servi l'année dernière sur le bashing pilule, si je puis dire. Donc ça a été, et moi j'ai écrit un article l'autre jour qui s'appelait les notices augmentent-elles les IVG. Donc ça veut dire que à force de lire que les tels médicaments étaient dangereux et de tels médicaments et dont la pilule, finalement on finit par ne avoir peur, ne plus les prendre ou les prendre avec beaucoup de regrets et donc de les arrêter, et puis c'est pas très bien non plus. Donc
d'oublier parce qu'on a un acte manqué,
voilà.
Oui, bien sûr. Bien sûr, et d'où, à ce moment-là, il y a une IVG, et ça, c'est quand même un petit peu plus ennuyeux pour la
donc,
santé.
Vous savez, l'effet nocebo, ça existe, parce que
je
dans
sais.
Les effets secondaires qui sont rapportés à la contraception et qu'on trouve dans les notices, il n'y en a pas 10% qui sont prouvés.
C'est dramatique, hein. Mais c'est ce principe de précaution contre lequel je lutte tous les jours.
Oui, on est deux.
Ouais, j'espère
moins,
qu'on est un peu
au moins.
Plus. Et on va bientôt se retrouver dans quelques minutes pour notre Love Test de ce soir.
RMC, c'est le Lae Night Show. RMC, quand Brigitte Lae fait son show, c'est le Lae Night Show.
Alors vous commencez à connaître le principe de ce Love Test. Et ce soir, c'est donc Fatima Ibounois et Trinidad qui vont répondre aux questions de Christophe Médici. Vous avez tiré trois cartes,
oui.
Christophe.
Mmh.
Eh bien, c'est à vous. Par qui commencez-vous ?
Alors, la première question, je la pose à Fatima. Alors, Fatima, êtes-vous déjà allé dans un club échangiste ?
Non.
Ou alors, inventer le nom d'un club dans lequel vous aimeriez aller ?
Alors, non, je ne suis... Non, ça me choque pas que des personnes... souhaite y aller tout ça, donc il y a aucun souci avec ça, mais moi non, ça me dit pas inventer le nom d'un club.
Inventer.
Faut que ça soit, alors pas
inventer.
Un truc, pas de jeu de mots, parce que j'aime pas les jeux de mots, c'est comme les coiffeurs.
Une littéraire
là.
Qui aime pas les jeux de mots.
Non, mais comme les salons de coiffure, tif. Non, il faudrait un truc un peu
au
dans la suggestion.
Non, non. Au croque madame.
Oh, non, mais c'est horrible.
C'est
assez drôle.
Moi, je suis au croque madame.
Non,
croque madame.
Non.
Et pour les homosexuels, au croque monsieur.
Non, ça fait beauf. Je suis désolée. Non, un truc un peu sexy.
Mais il peut y avoir des clubs échangistes beauf.
À la bonne miche. Je réfléchis, non, un truc. Je sais pas, l'aube. Voilà, un truc comme un truc
oh là
plutôt.
Là,
non, c'est évident.
Là, ouais.
L'aube, parce qu'on irait jusqu'à l'aube.
À mon avis, vous ferez pas
non.
Fortune.
Je
hein.
Crois que madame, c'est mieux, Fatima.
Le seul club échangiste qui fait faillite, personne y va. Non, j'ai pas d'idée, mais il faudrait que je trouve.
Bon. RMC, retourne-moi le corps, je ne sais pas.
Alors, une question à Trinidad.
Retourne-moi le corps.
Une question à Trinidad. Trinidad, une question pour vous.
Allez.
Quelle partie de votre corps vous fait le plus d'effet lorsqu'on la touche lors des ébats ?
Mon clitoris.
Je sais pas ce que c'est.
Et oui, c'est ça le drame. On avait des études dessus qu'il y a 10 ans, c'est dommage. Hein.
Ah, c'est les oreilles et tout ça, non ?
Non, j'en ai que deux, moi.
Bah, ça, c'est deux. Pas mal, oui, mais c'est pas...
Brigitte, non, pas quand même, on va faire.
Vous ne choisissez pas, hein, le but c'est de tirer
au
hasard.
Ah oui, oui, il prie, il fait
bon,
son marché
alors,
en fait.
Alors,
il fait son marché.
Tire au sort. Vantez les mérites de votre sexe comme si vous étiez Rocco Siffredi.
Ah, ça va être un peu difficile, hein, parce que j'ai pas vraiment un sexe Rocco Siffredi. Moi, je, mais c'est vrai, on peut voir les choses à l'opposé, hein, peut-être.
peut-être moins profond qu'il n'est long, peut-être plus étroit qu'il n'est large, mais tout aussi efficace et toujours prêt. Voilà.
Pas mal. Ça, ça donne envie.
Alors, Christophe, c'est à vous la question. Moi. Combien de fois vous masturbez-vous par mois?
600, 700, ça dépend des mois. Les mois des temps, je peux pas dire. En tout cas, je me masturbe.
Les animaux sextiles.
Ouais. Par souvent. Mois, par mois, 15, 20 fois.
Ça me paraît une, 15, moyenne, une bonne moyenne.
Oui, ouais, oui, 15, oui. 20 fois.
Oui, oui. Bon, ouais, très bien.
Et ça, nul n'est parfait. Hein.
Pas de jugement.
Pourquoi nul n'est parfait? Oui, c'est marrant comment il, ouais, reste, ouais. Il reste toujours ce jugement négatif, ouais, de la, non, de la masturbation. Pourquoi ce serait...
Je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes se masturbent.
Chacun fait ce qu'il veut de son corps.
Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'on en est arrivé à... Ça change absolument rien sur une personne de savoir ça.
Il paraît que c'est très bon pour la
qui
santé.
Qui se masturbe ou qui se masturbe
J'ai
pas.
J'ai lu ça quelque part.
Moi, à partir du moment où elle est en cohérence avec elle-même, voilà, si elle en a besoin, et si c'est pas par malaise ou quelqu'un qui s'isole et qui est seulement dans la masturbation, là, c'est compliqué. Ça va m'intéresser pour
et
voilà.
Et encore, après tout, s'il est heureux comme ça.
Oui, c'est bon. Après, le nombre, je sais même pas si on pourrait faire une moyenne tellement ça doit varier d'individu en individu et même dans les périodes de vie. Ça doit varier. Oui. Donc, on peut pas avoir un jugement sur quelqu'un
justement,
à partir de ce critère-là.
Peut-être qu'on peut reprendre le début de l'émission, si on initiait les enfants, enfin les ados à la masturbation.
Ah, mais ça, c'est compliqué, comment tu fais ça?
Bah, aussi simplement qu'on apprend le français.
Oui, mais c'est pour ça qu'on n'arrivera jamais à libérer réellement la sexualité, oui. Parce que on est tous en tant qu'adultes un peu inhibés avec des tabous, des blocages, et comme ce serait à nous de programmer des cours de sexualité, ça c'est de toute façon un cercle totalement vicieux.
En parlant de masturbation et tout ça, je fais une association. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu plusieurs fois sur Internet ces derniers jours. C'est dans le journal suisse Le Matin. Il paraît qu'ils vont créer à Genève. Mais je sais pas si ils vont créer un bar pour les businessmen. Ça va être des cafés pipes où les mecs pourront pour 50 euros aller prendre un café. Vous en avez entendu parler, Brigitte aussi. Je sais pas si c'est vrai, mais ils pourront se faire une pipe et prendre un café avant d'aller travailler pour avoir la pêche.
Et quand on pense que dans nos cafés, on ne peut même plus fumer.
Ça me fait penser à la chanson de Patrick Sébastien, une petite pipe avant d'aller dormir.
Allez, on va écouter Thierry maintenant, dont la femme s'était mise au ménage avec son témoin de mariage. Et puis Corinne également, qui nous avait raconté sa première expérience échangiste. Et en compagnie de Bruno Poncenard, tout ça.
RMC.
C'est fou, hein.
Et dire que vous pensiez tout savoir sur les femmes.
Bonjour Brigitte et bonjour Bruno.
Bonjour Corinne.
Alors Brigitte, j'ai pensé vous appeler il y a quelques semaines déjà pour ce sujet de la tromperie dans cet univers de l'échangisme, parce que ça existe aussi. Alors qu'au départ, on le fait vraiment dans un esprit de partage, pour voir l'autre prendre du plaisir et en recevoir des autres aussi, inversement. Et je n'ai pas eu le courage parce que j'étais pleine d'émotions et encore en très grande souffrance. Là, maintenant, c'est un petit peu différent parce que j'ai décidé de le quitter après 8 ans de vie de couple où on avait cette liberté de pouvoir s'amuser, mais toujours ensemble. Alors que, bon, on ne vivait pas ensemble. Hein. Je le voyais essentiellement le week-end et j'allais chez lui sur Paris régulièrement pour faire aussi des soirées parce que c'était quelque chose qui m'a vraiment épanouie depuis les dernières années. Et c'est un milieu que je retrouverai volontiers malgré cet échec que je viens de vivre. Là. Mais je voulais témoigner pour dire que dans l'échangisme, la tromperie peut exister également. À partir du moment où on n'a pas décidé ensemble qu'on fait un contrat, qu'on n'a pas le droit de sortir ou d'envisager de voir quelqu'un d'autre sans le consentement de l'autre, moi je l'ai pris en pleine gueule là, il y a quelques mois. J'ai mis 4 mois à prendre ma décision. Ça a été très long, j'ai été réfléchi, j'ai vu un thérapeute.
C'est-à-dire que vous avez découvert, Corinne, qu'il allait en club sans vous, c'est ça?
Pas en club, j'ai rencontré des femmes seules ou des couples.
D'accord, oui.
Des travestis, enfin, beaucoup de choses, toujours seules. Alors que ça lui arrivait de me dire, mais arrête de me considérer comme un goût de surpas, parce que moi j'étais très, très demandeuse de lui aussi, et qu'il me disait qu'il y avait autre chose à faire aussi, alors qu'en fait il était... Il était fatigué ou qu'il avait envie d'autre chose. J'ai pas compris ce qu'il cherchait, ce Il a voulu faire à travers ça, il n'a pas su m'expliquer. Il a continué à mentir malgré les preuves que j'ai accumulées, parce qu'avec mes tâches, on peut retracer sur plusieurs années les témoignages, les mails, etc. C'est super d'ailleurs comme site. Et j'ai, malgré que je lui ai montré, il l'a nié et il a réussi à me dire oui, j'ai fait des bêtises. Moi, je lui avais pardonné, mais il n'a pas su me montrer que je pouvais encore avoir confiance en lui. Il n'a pas laissé accès à son portable et tout ça, parce que c'est un homme secret.
Mais on a quand même l'impression dans cette histoire, Corinne, c'est qu'au fond vous n'avez pas joué tout à fait la même histoire. Et là, vous êtes sentie trahie parce que quelque part c'était pas votre deal, hein.
Pas du tout. Effectivement, l'idée c'était que on soit toujours ensemble, que l'on partage ça. Pour moi, c'était indispensable. J'avais beaucoup moins de plaisir à le faire sans lui. Ça m'est arrivé lors d'un voyage quand il partait. Mais c'était un jeu, c'est-à-dire que je lui disais, je prenais des photos et je le partageais. Là, ce que je lui reproche, c'est qu'il l'ait fait tout son coin, sans en avoir parlé qu'éventuellement il avait peut-être une addiction. Et il n'a pas su expliquer d'ailleurs ce pourquoi vraiment il avait ce besoin-là, alors qu'on avait beaucoup de sexualité, puisqu'on jouait beaucoup. Et moi-même, j'étais aussi très demandeuse. Et surtout, il n'a pas su m'expliquer me montrer les preuves pour à nouveau avoir confiance, parce que j'étais vraiment prête à accepter beaucoup de choses, parce que j'avais accepté beaucoup de choses déjà pour vivre comme ça avec lui.
Mais vous voyez, Corinne, vous parlez de son addiction, mais d'une certaine manière, vous aussi, vous étiez addict à lui, ou en tout cas à la sexualité. Il y a quelque chose de très fort, hein, qui vous a relié à lui. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est si douloureux de vous rendre compte qu'au fond, il correspond pas à l'idée que vous en aviez, hein.
Ben voilà. Ça a été ça, ma grande souffrance, et j'ai mis 4 mois à réfléchir, à essayer de pouvoir lui pardonner. Alors je pense que sur le fond, je lui pardonne. Je suis en train de faire mon deuil, mais j'aurais voulu qu'il au moins me dise oui, tu as raison, je t'ai trompé, j'étais menti, j'étais manqué de loyauté, j'ai pas été honnête, mais il l'a pas fait.
Corinne, moi je pense aussi que chez votre compagnon, il y a un plaisir justement dans l'interdit de la clandestinité, et l'adultère fait partie des interdits et de la clandestinité. Donc peut-être que effectivement votre projet commun n'était pas le même. Il y avait pas d'emphase entre ce que vous aviez défini comme modalité dans cette relation que vous avez construite avec lui et lui sa conception. Parce qu'effectivement, j'ai peut-être du plaisir à tromper aussi. Vous savez, les gens qui trompent, il y a quelque chose de l'ordre du donjuanisme, c'est-à-dire qu'en permanence j'ai besoin de prouver que je peux séduire, et puis j'aime flirter avec les interdits, avec et l'adultère c'est un interdit aussi. Au sens...
J'étais à l'écoute, Bruno. Je lui ai même donné cette explication en lui disant que je pouvais peut-être l'accepter et la comprendre, mais encore fallait-il qu'il puisse m'expliquer et me dire vraiment ce qu'il voulait, sauf qu'il n'a pas pu m'expliquer.
Mais peut-être qu'il ne sait pas, peut-être que c'est plus fort que lui, qu'il a besoin de vivre.
Ou que son plaisir vient justement du fait de vous manipuler, de vous tromper. Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui.
Parce qu'on peut effectivement avoir des amours libertins, saphiques, échangisme, pluralisme, etc. Après, il y a aussi des gens qui tirent le plaisir non pas dans le type de relation avec on échange entre couples, j'ai 2-3 femmes avec moi, je vois ma femme pratiquer avec d'autres hommes, etc. Il y a aussi le plaisir de tromper la femme avec qui je suis. Et je tire mon plaisir de ça. Donc c'est un peu compliqué là en quelques temps de développer, mais je pense que le projet n'était pas commun. Il n'y avait pas une définition commune de votre couple, en fait. Ou en tout cas, il n'y avait pas la même entente entre vous.
On pourrait dire, en quelque sorte, pour reprendre ce terme que j'aime bien, c'est qu'au fond, Corinne, vous étiez d'une grande loyauté vis-à-vis de lui. Lui, c'était pas du tout son point de vue. Il considérait que son plaisir, de toute façon, l'emportera toujours sur la relation, en quelque sorte. Mais je crois, Bruno Pensenard, qu'on parle aujourd'hui de l'adultère, il prend de multiples facettes.
Il est multiforme, bien sûr.
Et on voit bien que à chaque fois, pour chaque personne, c'est différent. Et le ou la partenaire en face comprend aussi les choses de manière différente. C'est pour ça que c'est si compliqué, si complexe.
Et c'est pour ça que c'est difficile de communiquer dans un couple, parce que pour se comprendre, il faut s'écouter, et il faut arriver à mettre en place quelque chose de commun. Si vous voulez un couple, c'est une entité à part entière, mais qui est constitué de deux personnes, de deux individus, de l'éducation, et il faut arriver à harmoniser.
En plus, vous dites, il faut s'écouter, certes, mais il faut aussi arriver à comprendre un fonctionnement qui n'est pas le nôtre.
Oui. Et là, comprendre, littéralement, ça veut dire prendre avec soi. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à faire mien la conviction ou la conception de l'autre. Et c'est des fois pas simple, parce que moi, j'ai mes propres convictions, et des fois, je suis un peu
en
décalage. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé de tout accepter, exactement.
Et on comprend bien, Corinne, que finalement, et je crois que vous avez pris la bonne décision, d'ailleurs, ça vous est pas possible de comprendre son fonctionnement, de l'accepter.
Corinne, par rapport à ce que vous avez évoqué, j'ai entendu quelque chose, j'ai accepté beaucoup de choses, je le sens un peu comme un don, comme un sacrifice. Faites ce que vous avez à faire, mais ne vous sacrifiez jamais pour l'autre.
Quand on dit j'ai accepté beaucoup de choses, c'est parce qu'on ne veut pas perdre la personne.
Mais je le vis comme quelque chose de subi, comme quelque chose de...
Oui, alors, oui, mais c'est vrai, bien sûr.
Et on ne peut pas laisser son âme dans le couple, vraiment.
Merci Corinne, en tout cas, de votre témoignage. On continue avec Thierry, qui a une histoire plutôt curieuse à nous raconter. Bonjour Thierry.
Bonjour Bruno, bonjour Brigitte.
Bonjour Thierry.
Ma femme est partie, s'est mise en ménage avec mon témoin de mariage, voilà. Et mon témoin de mariage, c'est mon ami d'enfance, mon frère. Et je l'ai appris un jour où le téléphone s'est mis à sonner, et sans qu'il le sache, il était dans sa poche, et je me suis rendu compte, alors que j'étais en déplacement, qu'il était en train de raconter des histoires à mes enfants dans leur lit. Et derrière, j'entendais ma femme qui disait « Bon, bah chérie, tout se passe bien. » Donc c'est là où j'ai compris que c'était pas tout à fait normal, cette histoire, en fait. Donc voilà.
C'est terrible ce que vous racontez, parce que vous avez découvert donc après votre mariage donc qu'ils avaient une liaison.
Tout à fait, qui datait d'avant le mariage. Après l'histoire fait que j'ai compris et su que ça datait d'avant le mariage. Là c'est en plus
c'est la double
adultère.
C'est la double peine. Oui. Voilà. Oui, bien sûr, puisque c'est votre ami d'enfance.
Oui, il y a eu la trahison de ma femme et la trahison de mon meilleur ami.
Tout à fait, voilà. Et la trahison la bien plus violente, finalement, c'est, en ce qui me concerne, ça a été celle de l'ami. Parce que ça a tout chamboulé la notion de confiance, la notion d'amitié, la notion de sociabilité. Je suis parti après dans un schéma où refaire confiance aux gens, ça a été très compliqué. Ouais.
Vous savez, ce que j'ai remarqué, Thierry, c'est que très souvent, dans des histoires de ce genre, l'homme va être beaucoup plus blessé par la trahison de son ami, alors que la femme va être plus blessée par la trahison de son compagnon.
Complètement.
Je ne sais pas si vous avez remarqué ça aussi.
Si, c'est des choses qu'on voit, bien sûr.
Oui, et pour un homme, que son meilleur ami puisse avoir une relation comme ça avec sa femme, c'est vraiment une trahison. Vous l'avez dit d'ailleurs, c'était comme mon frère, quoi.
Vous avez raison, Thierry. Faut vivre la vie comme une expérimentation. Il y a des bonnes expériences et d'autres moins bonnes, mais ces expériences, bonnes ou mauvaises, ça nous construit et on doit en tirer des enseignements, des leçons, quelque chose d'un peu philosophique. En disant, voilà, quoi qu'il arrive, la vie est belle.
Absolument. Mais on peut quand même considérer, franchement, et je crois que c'est ce que vous avez certainement ressenti de plus pénible, c'est que vous étiez vraiment le couillon de l'histoire, quoi. Comment il aurait dû réagir, au fond? Parce que je suppose qu'il est peut-être toujours avec votre ex-femme, d'ailleurs.
En fait, pour vous dire que finalement, ce qu'il aurait dû faire, moi, avec du recul, j'ai toujours pensé ça dès le début, il aurait dû assumer sa virilité, c'est l'homme, il est tombé amoureux de ma femme, venir me voir, moi, son ami, et me le dire. Et on en parle. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt de faire les choses comme
entre
je l'ai appris, c'est-à-dire
ouais,
dans le dos,
c'est ça.
En trahison.
Oui, c'est ça. Entre hommes, on s'arrangeait, quoi.
Ben, exactement, on en parle.
Oui, ouais, on s'arrangeait.
Je savais très bien que mon couple n'allait pas. C'est quelqu'un que je trouve.
Oui, mais excusez-moi, mais votre femme, quand même, elle est pas. Votre ex-femme, quand même, elle a pas eu une conduite très. Elle pouvait très bien me dire non, je t'épouse pas parce que j'ai un amant, enfin.
Oui, bien sûr, mais vous savez, quand on est jeune, qu'on a des enfants jeunes, on essaye de s'accrocher à un schéma. Souvent, vous parlez tous les jours des schémas dans lesquels on est, et on n'est pas forcément dans le bon schéma. Donc. C'est pas grave, ça,
mais c'est drôle parce que finalement, vous excusez plus votre femme que votre meilleur ami. On voit bien que la blessure, elle est peut-être encore un peu là, quoi.
Ouais, parce qu'il y a une rivalité, et puis le meilleur ami, surtout dans l'enfance, c'est un peu une amitié amoureuse. Alors, je parle pas d'amitié sexuelle, mais c'est vrai que quand on est entre filles, la meilleure copine, elle revêt plus d'importance que le fiancé, que le chéri. Et chez les garçons, c'est pareil. Il y a cette notion de, on est amis, mais mon meilleur ami, ouais, il y en a un qui est en avant et il y a une espèce de lien indéfectible.
Oui, à la vie, à la mort, quoi.
Et voilà, qui est indestructible. Et là, on voit bien que chez vous, ce que vous n'avez pas à supporter, c'est la trahison de cet ami, pas tant le fait qu'il
Oui, mais en même temps, Bruno Poncenard, ce qu'on doit quand même signaler, puisqu'on parle beaucoup de l'inconscient, ouais. Qu'un meilleur ami et de l'amour et du désir pour la femme de son meilleur ami, c'est quand même aussi quelque chose d'assez...
C'est très oedipien. Ma déformation de psychanalyse me ferait dire qu'il y a une rivalité comme... un garçon pourrait avoir une rivalité avec son père ou deux frères qui se tirent la bourre en permanence, hein, l'histoire de l'amour et la haine.
C'est exactement le schéma que j'ai vécu parce que dans notre amitié, c'est un garçon qui n'avait pas de succès avec les femmes. On a grandi ensemble, moi je n'avais pas à me plaindre de ce côté-là. Et finalement, il s'est construit sa vie sur la mienne.
Exactement. Le DIP, c'est quoi? Le DIP, c'est le petit garçon. Hein, si on parle pour vous, le petit garçon est amoureux de sa maman. Et ça arrive vers 4 ans. Et il se dit, pour avoir maman, il faut que j'élimine mon père et mes frères et sœurs, en fait. Je vais éliminer toute concurrence qui m'empêcherait d'avoir la relation exclusive que je veux avoir avec ma mère. Alors, on parle de pulsion sexuelle. Un petit garçon, c'est parce que c'est qu'une pénétration, un coït, etc., etc. Mais il y a déjà quelque chose de l'ordre de l'attachement, de la pulsion et de l'exclusivité. Après, en grandissant vers 5, 6, 7 ans, l'enfant rentre dans ce qu'on appelle le déclin de l'Oedipe, c'est-à-dire qu'il accepte que celui qui couche avec maman, c'est bien papa, et c'est parce que j'accepte que papa est avec maman, que moi je renonce à ce terrible projet et de coucher avec maman et de tuer papa pour faire ma vie d'homme. Là, en l'occurrence, ce qui se passe chez votre ami, c'est que lui, il a certainement pas résolu son Oedipe, puisqu'il est venu piquer la femme de son du père. Là, en l'occurrence, c'est le meilleur ami, quoi. Mais on voit bien qu'ils sont allés dans la transgression et dans l'interdit. Vous êtes en rivalité avec ce garçon et blessé par ce garçon. Moi, j'aurais eu envie de dire, si votre femme avait été au clair, elle vous aurait dit, mon chéri, je crois que je t'aime plus. Et elle aurait refait sa vie avec quelqu'un d'autre. Mais là, on voit bien qu'ils sont dans des interdits parce que ça s'est fait avant votre mariage. On continue l'illusion pendant le mariage, je suis avec lui. Quand vous êtes pas là, c'est lui qui vient lire les histoires à vos enfants. Voilà, il y a presque un plaisir dans la transgression.
Finalement, la morale de l'histoire, Thierry, c'est que vous êtes encore très présent dans leur couple.
Eh ben forcément, parce que de toute manière, j'ai des enfants en commun avec cette femme, donc on est lié à vie, hein, quelque part. Hein,
ben oui.
Donc vous continuez une belle histoire de vie. Mais si vous avez dit que vous aviez refait votre vie.
Eh ben le but de mon témoignage avant tout, c'était ça. Parce que avec des années de déprime, de manque de confiance en l'humain, d'être toujours dans ce conflit, je suis devenu quelqu'un de jaloux. Inconsciemment, parce que j'aime les gens et j'ai envie de leur faire confiance.
Il faut croire en l'être humain, vous avez raison, Thierry. Il faut croire en l'être humain.
Exactement, voilà.
Ouais,
exactement. Et j'ai eu la chance de rencontrer une femme merveilleuse, très belle, convoitée par sa beauté, par son côté avenant, et elle m'a réconcilié avec tout ça.
Et est-ce que
ça peut arriver.
Est-ce que vous avez à nouveau des amis?
Bien sûr.
Bon, ah bah tout va bien. Non, mais ça prouve que finalement, c'est pas. Enfin, vous êtes tout à fait sain de corps et d'esprit et vous allez bien. Vous êtes peut-être.
Bah, j'espère.
je veux dire, dans l'histoire, vous étiez justement parce que vous êtes quelqu'un de bien. Vous n'avez pas pu voir les choses pas très bien autour de vous. Vous savez, quand on fonctionne bien soi-même, on a tendance à projeter ça sur les autres. Si vous étiez un peu moins bien, vous seriez peut-être un peu plus méfié et vous auriez peut-être découvert le poteau rose plus tôt, voilà.
Bah exactement. Le problème, c'est qu'après, on devient quelqu'un de pas bien. Après.
Mais non, il faut le temps de guérir.
Peut-être un peu crédule sur le coup, hein.
Ouais, complètement.
Mais en tout cas, merci pour ce témoignage de cet enseignement on rebondit et puis
il y a plusieurs vies dans une vie, voilà.
Bien sûr.
On se retrouve pour notre Love Conseil et ce soir, je vous proposerai de muscler votre Pyrénées.
RMC, c'est le Lae Night Show. RMC, quand Brigitte Lae fait son show, c'est le Lae Night Show.
Et le Love Conseil ce soir, muscler son périnée qui est souvent notre pire ennemi. Et c'est Trinidad qui est avec nous. Je rappelle que vous êtes dans ce spectacle que l'on retrouve au Festival d'Avignon jusqu'au 30 juillet. Et pendant ce temps, Simone Veil. Fatima Aïd-Bounoua est avec nous également. Je rappelle que vous avez également écrit un livre qui s'appelle La Honte aux éditions Edilivre. Christophe Médici, notre docteur en psychosociologie également, c'est l'homme de ce soir, auteur de Homo Connecticus. Alors le périnée, on en parle évidemment beaucoup dans cette émission, c'est cette zone qui se situe entre l'organe sexuel homme ou femme, et l'anus. Et c'est vrai que c'est important qu'il soit bien tonique, parce que justement, c'est grâce à lui que la sexualité généralement va mieux, ça évite aussi les fuites urinaires, etc. Il faut savoir aussi que c'est parce que l'homme s'est redressé que cette zone, ce plancher, justement, est mis à rude épreuve, hein, puisqu'il supporte toutes les viscères. Et donc, mieux vaut s'en préoccuper, et finalement on s'en préoccupe très très peu. C'est généralement après des accouchements que les femmes commencent à se rendre compte qu'elles ont des problèmes de périnée. Et pourtant, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et dans de nombreuses cultures, je pense notamment à la danse du ventre, eh bien, on autorise le corps à bouger, et tout particulièrement le bassin. Et dans notre culture occidentale judéo-chrétienne, c'est vrai que le bassin est assez bloqué. Donc déjà, le premier conseil qu'on peut donner, laisser libre un peu plus cette zone du corps qui se trouve donc entre le nombril et justement les organes génitaux.
Oui, moi je l'ai vu en mettant en scène des comédiens, à quel point cette partie du corps est souvent oubliée. Et je leur dis toujours, on avait travaillé avec un comédien comme ça, je dis, imagine que tu as une boule justement, et sur une musique très sensuelle, je les obligeais à prendre conscience de leur bassin, en évitant de faire tomber cette boule, quoi.
Et d'ailleurs, on parle souvent, c'est pour ça que une des positions du Qigong au départ, Brigitte, hein, cette semaine,
absolument,
comme ça, on dit, quand quelqu'un,
ouais,
n'est pas dans son assiette, ouais, l'assiette c'est bien ça, c'est, ouais, cette partie du corps, être dans son assiette. C'est vrai que c'est important de l'habiter.
Oui, oui.
C'est vrai.
Et toute cette zone, donc, si elle est un petit peu rigide, bah forcément, elle empêche la circulation énergétique déjà, mais aussi une bonne musculature qui est importante. Voilà.
Oui, c'est ça. Il y a la question de l'énergie aussi, parce que moi, j'ai fait de la danse orientale et j'ai fait aussi du tamouré, c'est de la danse tahitienne, et dans les au-delà de l'image un peu folklorique de la danse orientale qu'on réduit souvent à la danse du ventre où voilà on secoue comme ça, et du tamouré où l'image lascive des jeunes femmes qui disent bienvenue chez nous. Dans l'histoire de ces danses-là, il y a la question de l'énergie aussi entre terre et ciel, en fait. Et les deux se rejoignent au centre. Et comment?
Ben le fameux haras, hein, qui se trouve exactement entre à mi-distance entre l'anus et le nombril.
Exactement.
Et c'est là notre centre de gravité, hein,
et d'énergie.
Et les sumo le savent bien d'ailleurs, parce que quand ils sont accroupis, ils prennent une certaine position en reculant un peu les fesses pour justement que ce centre de gravité soit exactement à mi-distance entre leurs deux pieds.
Et dans les exercices pour se muscler le périnée, la première chose, c'est se visualiser déjà. Parce qu'il y a plein de femmes qui ne savent pas du tout. Et donc, rien que le fait de visualiser les mouvements, que ce soit des mouvements de spirale ou de vague, parce que c'est ce qu'on fait faire. Et déjà, dans ça, c'est se réapproprier son corps et puis se recentrer pour trouver cette énergie en nous. Alors, on dirait que c'est perché quand on le dit comme ça, mais quand on le vit, eh bien,
absolument,
c'est...
Alors, je vais donner juste comme ça, c'est toujours compliqué à la radio, mais je vais donner une explication que tout le monde peut faire, un exercice que tout le monde peut faire. Vous avez les jambes parallèles, environ à 50 cm, légèrement, les genoux légèrement pliés, et vous faites des mouvements de bassin tout en serrant les fesses, et votre bassin doit aller de l'avant en remontant légèrement. En fait, c'est vraiment un mouvement de cavalier, hein, donc c'est pour ça que les cavalières, généralement, ont un périnée qui va très très bien. Et le haut du corps ne doit pas bouger. Et si vous arrivez tout bêtement déjà à faire cet exercice-là, eh ben vous aurez déjà bien avancé. Puis évidemment, essayez de ressentir ce qui se passe dans votre corps. Voilà. Et puis, je rappelle que vous pouvez trouver toutes les infos de ces Late Night Show que vous avez écouté toutes les nuits sur la page Facebook de l'émission ou sur le compte Twitter Late RMC. Et on va écouter tout de suite Julien, dont le partenaire était infidèle, et Naël, un multi-addict. Et j'étais avec Laurent Carilla, notre spécialiste des addictions.
RMC, et dire que vous pensiez tout savoir sur les femmes.
Naël, bonjour.
Bonjour Brigitte, bonjour tout le monde.
Vous avez 28 ans, vous êtes addict à la cigarette, à l'écran, à internet, aux jeux vidéo et peut-être aussi au sexe, non?
Oui, aussi. Hein. Je suis multi-addict en fait, et j'aimerais rassurer un peu, parce que j'ai entendu que des parents qui étaient inquiets. Alors oui, bon, moi je suis addict depuis l'adolescence, on est d'accord. Et je pense pas rater ma vie, je pense pas être passé à côté des moments essentiels de ma vie. J'en retiens pas mal de positifs en fait, parce que si vous voulez, moi c'est une façon de m'échapper un peu du quotidien, de faire le vide dans ma tête.
Oui, mais vous êtes peut-être pas vraiment ce qu'on appelle un addict. Vous êtes peut-être un passionné qui vit la vie par les trois bouts.
Je peux passer 8 heures devant un écran à des jeux vidéo. Donc oui, moi je me sens addict, ouais.
Oui, quand même, 8 heures, c'est pas rien. Mais est-ce que ça a des répercussions négatives sur votre travail ou votre vie sentimentale? Parce que c'est ça le problème.
Non, pas du tout. Justement, au contraire, ça me permet d'apprécier le reste, en fait, si vous voulez. Parce que je suis... Le temps que je passe avec moi-même dans mes jeux ou dans mes addictions, ça me permet de jouir un peu plus du moment passé avec les autres, en fait, si vous voulez.
Enfin, en tout cas, c'est l'impression que vous avez. C'est pas moi, je suis pas certaine de ça non plus. Mais enfin bon, si vous êtes bien, vous savez, je crois que c'est compliqué. On ne définit pas l'addiction en fonction du nombre d'heures, mais en fonction de la souffrance, hein, plutôt.
Oui, tout à fait. Mais c'est qu'il y a des fois, ça me manque quand je pars en vacances. Hein, c'est vrai qu'il y a des fois, je me dis là, je ferais bien une petite partie. Mais ça ne vous empêche pas
de partir en vacances.
Non, pas du tout. Mais ça ne me restreint pas dans ma vie de tous les jours, si vous voulez. C'est juste, je pense qu'on peut être addict et quand même faire la part des choses et avoir une vie, quoi. On n'est pas obligé de... Je pense pas être obsédé par mes addictions, quoi.
Mais oui, mais c'est bien ce que je vous dis, c'est qu'à vous écouter, on sent que vous êtes quand même dans une consommation excessive de tout ça, mais malgré tout, je ne vous définirai pas comme un addict.
D'accord.
C'est-à-dire que a priori, je pense que vous êtes capable quand même de vous réguler, quoi.
Je pense que ça amène frustration et du coup, ça va être contre-productif, je pense. Mais,
et ça amène transgression, souvent, l'interdiction.
Voilà.
Et oui, c'est vrai. Ben merci en tout cas de votre témoignage.
Ça rassurera
quelques parents. Bon, en tout cas, vous avez l'air d'aller bien. Moi, je m'inquiète pas pour vous.
Oui. Non, il n'y a pas de souci.
Bon, je vous envoie pas le livre de Laurent Carilla, ça va. Vous n'en avez pas besoin.
Si vous voulez, oui.
Mais non, vous n'êtes pas addict. Merci.
Non,
Naël.
Je suis pas addict. Ça va aller, merci.
Julien est avec nous maintenant. Bonjour, Julien.
Bonjour Brigitte, bonjour Laurent.
Bonjour Julien.
Vous avez 44 ans et vous avez donc votre partenaire a été infidèle, hein, c'est ça?
Oui.
Il y a combien de temps?
Il y a 10 ans.
Il y a 10 ans et visiblement vous n'arrivez pas à vous en remettre.
Non, tout à fait. On s'est mariés depuis d'ailleurs, enfin après. Et puis écoutez, je me lève le matin, je pense à ça et je me couche le soir, je pense à ça. C'est incroyable, non? C'est incroyable parce que depuis il ne s'est rien passé, bien sûr. Mais j'ai toujours ce petit truc qui est en moi et qui est incroyable.
Est-ce que votre sexualité va bien avec votre femme aujourd'hui?
Écoutez, parfaitement bien, oui. Enfin, j'ai l'impression que tout va bien. Maintenant, qu'est-ce qui est bien ou pas bien, je ne sais pas.
C'est important parce que si votre sexualité va bien, c'est peut-être parce que vous ne pensez qu'à ça le matin en vous réveillant.
À quoi? À ma sexualité ou à cette histoire-là?
À cette histoire-là, c'est-à-dire que votre rival reste là pour que votre sexualité aille bien, vous voyez ce que je veux dire?
C'est un boost de libido.
Mais je le vois, mon rival. Pardon. Je le vois, mon rival.
Oui, j'entends bien.
Il l'a recherché pendant un bout de temps parce qu'on voulait pas m'expliquer qui c'était. Enfin bon, bref, et je l'ai trouvé. Bon, j'ai voulu, à mon avis, comme beaucoup de personnes, lui en mettre 2-3, et puis j'ai été un peu plus fort que ça. J'ai réfléchi, j'ai parlé avec lui, j'ai causé, enfin bon, il m'a expliqué. Le pauvre, dans cette histoire, il dit pourquoi en fait lui, pour pas grand chose. Hein.
C'est intéressant parce que vous me donnez de l'eau à mon moulin.
C'est vrai, tant mieux, mais en fait, lui, il n'y est pour rien.
C'est elle la coupable, hein, bien sûr.
Bien sûr. Oui. Et puis bon, moi je l'ai connue, elle avait 18 ans, donc ça remonte un petit peu. Hein. Enfin, j'ai été son premier homme. Et puis bon, quelques amis m'ont dit, tu verras, ça dure pas. Mais je dis, pourquoi ça durerait pas? Ils me disent, c'est pas possible qu'une nana connaisse qu'un seul homme dans sa vie.
Si, c'est possible, Julien. Ça, là-dessus...
Vous croyez?
Mais je suis... Non seulement je le crois, mais j'en ai la preuve. Mais c'était pas le cas de la vôtre.
Voilà, exactement.
Dis-moi.
Exactement. Pardon. Donc, enfin, bref, et puis voilà, mais, si vous voulez, ça va bien, mais j'ai l'impression que aujourd'hui, donc, on est mariés depuis 12 ans maintenant, et j'ai l'impression aujourd'hui que si demain quelqu'un essaye de la séduire un peu mieux que moi ou quoi que ce soit, vous voyez, c'est, alors, c'est, je sais pas, c'est peut-être un manque de confiance, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que pourquoi elle irait pas voir ailleurs, je sais pas. Voilà.
Vous avez parlé à quelqu'un, là, d'aller déballer un peu votre sac,
Non.
C'est pas mal, ce serait pas mal, puisque ça vous prend un peu la tête, quand même, depuis toutes ces années.
Mais qui, je ne sais pas qui en parlait, voilà.
Il faut en parler à un bon psy, hein, ouais. Voilà. Parce qu'en fait, Julien, ça nourrit quelque part une sorte de fantasme d'avoir son beau copain. Parce qu'on voit bien, vous avez été jusqu'à le rencontrer, vous êtes presque devenus copains ensemble. Hein.
C'est vrai.
Et donc c'est quelque chose, si vous voulez, qui est un peu d'une relation père-fils, voyez.
Oui.
Et c'est ça que, avec un psy, vous pourrez comprendre, et ça vous aidera à avancer dans votre condition d'homme par rapport à la filiation et dans votre rapport aux femmes. Parce qu'au fond, vous dites c'est peut-être un manque de confiance en moi. Non, je pense que quelque part c'est plutôt un manque de confiance dans la femme, qui est de toute façon, c'est à cause d'elle, hein, le péché originel.
Il y a
compagnie,
l'estime de la
etc.
relation, tout à fait, ouais. Et l'estime de la relation.
Et d'ailleurs, vous croyez vos copains quand ils vous disent de toute façon ça durera pas, une femme ne peut pas être à un seul homme, elle sera forcément attirée par le serpent.
Oui, tout à fait, bien sûr.
Vous voyez, c'est vos croyances qui quelque part sont nourries par votre propre histoire, par ce qui vous est arrivé.
Au départ, moi j'y croyais, je pensais qu'une femme pouvait rester qu'à un seul homme, et en fait, je me suis aperçu.
Mais tout est possible.
Oui, tout est possible. C'est vrai. Mais
je pense que ce que vous exprimez là, enfin, c'est pas mal peut-être d'essayer de comprendre. Ces nœuds-là, vous voyez, vous avez des nœuds, il faut les dénouer et en parler avec quelqu'un et vider son sac un peu, puisque vous dites, je me lève le matin, je me couche le soir avec, mais par ailleurs, tout va bien. Par ailleurs, tout va bien, ok, mais c'est peut-être aussi un bouclier protecteur, vous voyez, un truc défensif. Quoi.
En fait, Julien, votre couple va très bien, votre sexualité va bien, vous aimez votre femme, vous ne l'avez pas quittée, elle est certainement, elle s'en veut certainement, et du coup, vous avez peut-être un peu plus le pouvoir, tout ça fonctionne très bien. Mais néanmoins, vous êtes obsédé par ça. Mais pourquoi vous êtes obsédé par ça? Parce que ça répond à des croyances très profondes chez vous qui sont pas bonnes.
C'est possible. Pourquoi je le reproche à chaque fois? Parce que ça nous arrive.
Ça vous donne le pouvoir.
Mais si.
Parce que du coup, elle se sent coupable. Mon grand maître Julien, je suis soumise devant
vous
toi.
Vous avez des enfants, Julien?
Oui, deux enfants depuis. Hein. Enfin bon, ouais. Il s'est passé l'histoire, on s'est mariés ensuite, et puis depuis, il s'est rien passé, bien sûr. Ouais. Enfin, j'espère. Enfin, je le sais pas, mais bon, je pense pas. Nous avons eu deux enfants ensuite. Voilà.
Allez déballer votre sac, je crois, moi. Allez déballer tranquillement, mais c'est pas quelque chose en urgence, mais allez le déballer, quoi. Essayez de comprendre pourquoi ça vous prend autant la tête.
Me dire, parce que j'ai l'impression que, enfin, je sais pas, on va pas m'aider.
Il faut trouver quelqu'un de bien.
Non, mais Julien, vous n'avez pas envie d'aller voir quelqu'un parce que quelque part ça vous arrange quand même.
Non, je vous promets, Brigitte, que j'aimerais bien
trouver
quelqu'un qui me soulage.
Faites-moi confiance. Quelque part, ça vous arrange parce que ça répond à des croyances un petit peu fausses, mais qui quelque part vous rassure dans votre identité. Mais je suis persuadée que si vous allez en parler à quelqu'un, mais il faut encore une fois quelqu'un de bien, hein, parce qu'on a des thérapeutes qui parfois font, voilà. Mais je suis sûre que ça va vous faire, ça va vous ouvrir des horizons et ça va vous libérer.
Ouais, ça vous aide à comprendre certaines choses de votre vie, en tout cas.
Le conseil que je peux aussi vous donner, Julien, réécoutez ce qu'on s'est dit tous les trois.
Oui. En podcast.
Parce que ça va vous permettre de l'entendre un peu mieux. Parce que c'est vrai que j'ai bien vu que vous résistiez à certaines choses que je vous ai dites.
C'est vrai.
Et quand on résiste, c'est parce que ça touche là où il ne faut pas que ça touche.
Ça touche, c'est ça.
C'est possible, c'est
possible.
Ouais, non, mais c'est vrai, complètement.
RMC, c'est le Late Night Show. RMC, quand Brigitte Lahaie fait son show... C'est le Late Night Show.
Est-ce que le sexe et la religion font bon ménage? Comment ne pas sombrer dans les sept péchés capitaux? Pour le savoir, je vous propose que nous écoutions l'intervention de l'abbé de la Morandée qui était venu déjà il y a quelque temps dans Late, l'amour et vous.
RMC, c'est le Late Night Show.
Moi, je suis docteur en théologie morale, mais justement, j'ai pas voulu faire un livre du pédagogue qui monte dans sa chaire pour leur dire voilà comment il faut faire. J'ai plutôt pris un livre où on me dit, ben voilà, moi ça m'implique aussi dans les sept, et c'est une façon indirecte de vous inviter à faire votre propre examen de conscience.
Oui, on pourrait dire que vous vous découvrez beaucoup dans ce livre.
Oui, pas totalement, il y a un peu de pudeur. Oh,
allez, vous avez suffisamment d'humour, j'aime bien, je suis un peu comme Paul Vermus, hein, j'aime bien vous titiller un peu. Alors justement, vous parlez de, on va commencer par l'envie, vous parlez de l'envie et vous dites, c'est très important de comprendre que l'envie, c'est pas de la jalousie, c'est deux choses différentes, c'est deux sœurs pas si jumelles que ça.
Oui,
pas,
non, mais c'est un défaut de vocabulaire, parce que dans la pratique courante, souvent les gens emploient le mot jalousie pour envie. Alors pour mettre les choses bien au point, la jalousie c'est la peur de perdre ce qu'on a. Bon, le mari jaloux qui voit que sa femme est peut-être attirée par un autre, etc. Et puis l'envie c'est le désir de ce qu'on n'a pas. C'est pas du tout la même chose.
Absolument, mais parfois, moi je l'entends dans les couples, ils pensent être jaloux, alors qu'en fait c'est une sorte d'envie de par exemple de on peut être jaloux parce qu'on a envie de tromper l'autre et on croit que l'autre va le faire. Oui. C'est pour ça que c'est compliqué.
Et puis, vous êtes une experte dans les cœurs et les corps et vous savez qu'aussi on veut provoquer l'envie pour savoir si l'autre est encore un peu jaloux. Il y a des gens qui vous disent si je suis jaloux c'est que je suis encore amoureux. Alors oui. Que moi je crois que le vrai amour passe au-delà de la jalousie et va vers la dépossession. Je ne possède pas l'autre, quoi.
Bien sûr, oui. Mais en même temps, la possession, c'est quelque chose de très humain. On s'accroche, au fond, on s'accroche
à
tout.
C'est qu'à moi, dit le premier petit enfant tout petit qui parle, il prend son jouet, c'est qu'à moi. Bon, et on reste enfant très très longtemps.
Hein. Toujours.
Moi, je dois avouer que j'ai mis un temps fou à ne pas être possessif. Hein.
C'est vrai?
Oui.
Ouais. Bon, et qu'est-ce que vous pouvez dire justement à ceux qui envient par exemple la richesse du voisin, la femme du voisin, la situation, comment on peut se guérir de l'envie justement?
Alors il y a une réflexion des Cévennes, je suis un Breton en exil dans les Cévennes, ils disent toujours de quelqu'un qui a tout réussi, c'est le plus riche du cimetière. Ça veut dire qu'il faut tout relativiser. Ah, ben vous voulez être si riche que ça? Et si ta vie, tu la perds, il y a une phrase de l'évangile comme ça. Si tous tes greniers sont, il y a le riche qui, mes greniers sont pleins, je vais bâtir, je vais faire ci, je vais faire ça, et hop, il meurt dans la nuit.
Vous voulez dire que finalement, on en veut toujours plus, quoi. Si on reste dans l'envie, on en veut toujours plus, et au fond.
Oui, toujours. Et là, on est dans la crise financière aujourd'hui, la crise économique. C'est vraiment typique de la cupidité. C'est l'envie de porter au maximum, d'en gagner toujours, 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 toujours plus.
Finalement, notre bien le plus précieux, c'est quoi? La santé? C'est
par rapport à l'argent, je dirais, c'est la sobriété. Je me souviens d'avoir assisté il n'y a pas longtemps à la Revue des Deux Mondes à une conférence du petit Baroin. Je l'appelle le petit parce que je l'ai vu plus petit que ça, quoi. Et il était entre la rigueur, l'austérité, etc. Et quand il est passé dans ma table et qu'il m'a salué gentiment, d'ailleurs, en me rappelant que j'étais présent à la mort de son père, qui s'était crashé dans un accident d'avion, je lui dis, mais monsieur le ministre, entre la rigueur et l'austérité, il y a la sobriété.
Alors vous dites aussi dans votre livre Les Sept Péchés Capitaux, Alain de la Morandé, que l'envie, c'est peut-être de tous les péchés le plus difficile à avouer et pourtant le plus répandu, en tout cas vous citez René Girard.
Oui, parce que oser avouer qu'on est envieux, j'allais dire,
c'est pas très noble, c'est vrai.
C'est pas très noble, mais paradoxalement, en même temps, c'est faire un peu preuve d'humilité. Ça veut dire, je suis un peu pauvre de ça. Je sais pas, moi, si je disais, par exemple, j'ai envie que mon livre se vende à 30 000 exemplaires.
Ça se comprendrait. Mais vous en feriez quoi de cet argent?
Ah bah alors là, ça, du coup, ça c'est pas un problème. D'ailleurs, en général, je signe mes contrats chez les éditeurs pour une association et j'aide une fondation.
Donc, ce serait noble. Alors finalement, ce serait noble d'avoir envie que votre livre se vende à 30 000 exemplaires.
Oui, mais c'est pas seulement un problème économique. C'est se dire, quand même, il y a 30 000 personnes là, qui ne sont pas ennuyées.
Qui ne sont pas ennuyées
en lisant ce bouquin.
On en reviendrait à l'orgueil. Oui.
Dans le service de presse, j'ai eu une réponse très drôle. Le service de presse, en général, les gens n'accusent pas très souvent réception des bouquins, quoi. Sauf comme vous, quand vous invitez.
Bien sûr.
Mais j'ai eu un petit mot de Jean Dormesson, qui a beaucoup d'humour, et qui me dit « Ah, j'ai eu l'impression de voir mon autobiographie personnelle. » Ah, bon, c'est drôle.
Oui, oui, c'est quelqu'un de très brillant, mais qui a aussi beaucoup d'humour, Jean Dormesson, bien sûr. Alors, on va passer à la luxure. Et alors, quelque chose qui est drôle aussi dans votre ouvrage, et c'est vrai que vous parlez beaucoup de vous, Alain de la Morandée, vous racontez vos séductions, vous plaisiez quand vous étiez jeune, parce que vous étiez un bon danseur.
Absolument. Oui, oui.
Et c'est pour ça que vous avez appelé votre livre La Ronde des Sept Péchés Capitaux.
Oui, La Ronde des Vices. Oui, oui, Les Sept Péchés Capitaux en sous-titre. Oui, j'étais un bon danseur. Ben, j'adore toujours danser. Maintenant, malheureusement, je ne danse plus jamais. Et quand j'avais 18 ans, que j'allais dans les surbaumes nantaises, je revenais à 7h du matin et j'allais à la messe à la cathédrale. Quoi. Pour moi, il n'y a pas de contradiction entre prier et danser.
Et vous vous imaginiez amoureux?
Je m'imagine amoureux, évidemment. Oui, je regardais passer en mobilette celle dont je croyais que... Mais j'étais amoureux de l'amour, comme dit Saint-Augustin. C'est aussi bête que ça, quoi. Mais... Non, les épreuves amoureuses sont venues plus tard, une fois que j'étais prêtre. Ça, c'est plus ennuyeux. Après choc de 68.
La luxure, c'est quoi exactement? Parce qu'on a, on entend ce mot, on sait que ça fait partie des péchés capitaux, qu'est-ce que vous donneriez, vous, comme définition?
Dans la tradition catholique traditionnelle, c'est l'usage du plaisir sexuel en dehors du mariage.
Ah ben, on est bien.
Eh bien, hein.
On est nombreux à avoir fauté. Hein,
ça concerne beaucoup de monde. Ça va depuis l'auto-érotisme en passant par l'adultère, enfin tout ce qu'on veut. Quoi.
Je vous demande, mon père, l'absolution. J'ai beaucoup fauté. L'absolution ?
On va négocier la pénitence. Hein.
On négocie, d'accord. Ça me va bien. Bon, alors ça c'est donc...
Vous avez fait fantasmer plein d'adolescents, quoi.
Ah ben, peut-être que grâce à moi, il y a plein de couples qui ont fait des enfants, allez savoir.
Why not?
Hein? Après tout, finalement, j'ai œuvré.
Pour la démographie française?
Oui, et puis pour la fidélité des couples, après tout, non?
Ça, je l'espère.
Hein, parce que finalement, si on regarde un film pornographique et qu'on reste en couple, tout va bien.
Ah oui, oui.
On faute pas,
ça,
là.
Oui, 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 ça va. On va pas aller voir ailleurs.
Alors, il y a quelque chose que vous dites aussi qui est intéressant par rapport à la luxure. Vous dites, au début, pour moi, le mot luxure, ça me faisait penser à la nature, le côté luxuriant.
Ah ben complètement, oui.
D'ailleurs, vous étiez naïf, quand même. Hein.
Mais alors, moi, je suis d'une génération, on savait rien. Vous savez, on nous a appris rien de rien de rien. Quand je suis même parti au séminaire, je savais rien. Si j'avais été une femme, j'aurais été une oie blanche. Je sais pas comment on dit pour un homme, mais c'était la génération. Je l'ai ressorti, ça, d'ailleurs, non pas du tout pour les excuser, mais quand il y a eu le scandale des prêtres pédophiles, j'ai fait pas mal de médias, et je disais, vous savez, ces gens-là, c'est des gens de ma génération, ils sont coupables, ils sont criminels, il y a rien, mais ils font partie, comme moi, de ma génération, où l'Église est responsable de ne leur avoir donné aucune éducation sexuelle, et encore moins physique.
Et c'est vrai que c'est compliqué, finalement, parce que vous n'avez aucune éducation sexuelle, vous n'avez aucun exercice pratique.
Bien sûr.
Puisque vous êtes...
En revanche, comme un médecin généraliste, on entend plein de choses.
Voilà. Et il faut arriver à se faire sa propre éducation et c'est pas ça.
Alors, j'arrête que souvent l'argument que me donnent quelques journalistes en me disant, mais enfin, comment pouvez-vous parler de sexualité alors que vous ne savez rien? Et je dis, et le médecin que vous allez voir, vous lui demandez d'avoir eu la scarlatine, le sida ou le cancer pour être gay? Non, mais je suis riche de tout ce que j'ai reçu pendant 40 ans. Quoi.
On a des auditeurs qui sont avec nous, qui ont des questions à vous poser. On va commencer avec Catherine. Bonjour Catherine.
Bonjour Brigitte, bonjour Alain.
Bonjour.
Excusez-moi, je suis un petit peu hors sujet.
Parce que non, pas du tout, parce qu'il en parle dans son livre Notre Abbé. Donc il n'y a pas de problème. D'accord. Catherine.
Parce que ce n'est pas un péché capital, je suppose. Quelle est votre position, Alain, sur l'homosexualité?
La position est un mot curieux pour la question, mais enfin bref.
Oui, la meilleure.
Mais moi, j'ai découvert ça assez tardivement. C'est-à-dire que, après l'explosion de mai 68, c'était plutôt les grosses discussions sur la cohabitation juvénile, comme disaient les sociologues, etc. J'ai découvert les problèmes de l'homosexualité dans les années 80, quand j'étais à Saint-Méry, c'est-à-dire à côté du Marais, quoi. Et donc, notamment parmi le milieu des artistes, eh bien, il y avait un certain nombre de jeunes homosexuels, et qui se posaient, évidemment, la question grave de savoir comment, en tant que chrétien, catholique, croyant, ils pouvaient vivre leur homosexualité. Alors, là aussi, j'ai découvert la vie, parce que je n'avais aucune espèce d'expérience. C'est l'époque où il y a eu tout est mort du sida, etc. Alors, dans le livre, je parle de l'homosexualité en essayant de lui dégager un sens, c'est-à-dire un côté positif. Et je rappelle que dans la culture biblique, le levain est à la fois ce qui est impur, la veille de la Pâque, dans le monde juif, le maître de maison doit chasser ce qui est impur de la maison, de la cave jusqu'au grenier. Et pourtant, c'est le levain qui fait lever la pâte. Donc, j'ai envie de dire, l'homosexualité, c'est un peu comme le levain dans la pâte. Certains le considèrent comme impur et ont envie de le rejeter. J'ai envie de ne les rejeter pas. C'est eux qui souvent font lever la pâte. Et donc, c'est une métaphore qui pourrait être positive. Ce qui est très difficile quand on est catholique, enfin même chrétien tout court, et homosexuel, c'est de se dire, d'une part, mais pourquoi Dieu m'a infligé cette épreuve? Parce que souvent, il faut quand même le dire, c'est une épreuve.
Ils font pas exprès, et puis ils font pas exprès. Hein.
Et puis ils l'ont pas choisi. Hein, contrairement à ce qu'on nous raconte toujours, ils l'ont pas choisi. Donc certains le vivent gaga, marions-nous, enfin ça dure pas très longtemps. Souvent, ils le vivent comme une épreuve, et notamment l'épreuve de la fidélité, parce qu'autant dans le mariage chrétien, et c'est une des raisons pour lesquelles je récuse le mot mariage pour le pax des homosexuels, dans le mariage chrétien, il y a une théologie qui est bâtie sur l'alliance. Et l'alliance, chez les juifs, elle commence avec Adam et Ève, elle est rompue, ensuite il y a Noé, elle est rompue, il y a Moïse, elle est rompue, et nous, on est héritiers de la théologie de saint Paul, pour laquelle la théologie de l'alliance est basée sur le Christ et l'époux, et l'Église et l'épouse. Donc c'est une alliance qui ne peut pas être détruite, qui est irréversible. Alors, on ne peut pas appliquer ce genre de théologie aux homosexuels, puisque c'est votre question. Et ils ont vraiment inventé une éthique exigeante, mais difficile.
Merci Catherine de votre question.
Merci de votre réponse. Au revoir.
Nous avons Armando également qui est avec nous. Alain de Lamorandais vous écoute. Allez-y, Armando.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour à vous. Écoutez, vous venez de parler de la culpabilité probable de celles et ceux qui vivent en couple avant le mariage. Et moi, j'avais envie de vous poser une question, puisque je suis allé il n'y a pas longtemps à Rome. Et qu'en est-il, selon vous, de la culpabilité probable et possible de la richesse de Rome qui ne sert pas à la nourriture de celles et ceux qui, de par le monde, se meurent de faim, se meurent de manque de soins ou de manque d'éducation?
Bon, vous rêveriez comme moi, quand j'avais 30 ans, à ce que le Vatican vende toutes ses richesses artistiques, parce que c'est des richesses artistiques, c'est un patrimoine culturel, non, pour nourrir les pauvres. Si, c'est surtout ça, vous savez.
Oh, il n'y a peut-être pas besoin de vendre.
Alors, qu'est-ce qu'on en fait?
Il y a peut-être besoin de commencer par ne pas en accumuler autant.
Vous savez, il y a longtemps que le Vatican n'achète plus d'œuvres artistiques, vous savez, ils n'ont plus les moyens. Mais j'ai envie de vous dire un petit peu, j'ai un peu envie de...
Laissez-moi juste vous dire que je suis allé là-bas.
Ouais.
Et j'ai eu envie d'enlever mes chaussures pour rentrer dans la place. Juste à la place. Vous savez, tout au début, là.
Ouais.
On quitte la route, la rue,
ouais,
la route là, et qu'on arrive sur le début du parvis là,
ouais,
j'ai envie d'enlever mes chaussures pour ne pas salir.
Mais vous trouvez que c'est très ostentatoire, c'est ça, Armando?
Tout à fait. Je suis ressorti de là admiratif.
Et en même temps.
Et ulcéré.
Ulcéré. Blessé.
Je suis sorti de là meurtri et heureux.
Oui.
Je me suis recueilli. Franchement, quand voilà quoi, j'ai habité à Paris devant l'église Saint-Jean-Bosco.
Oui.
Connaît son histoire.
Une église modeste.
Très modeste.
Oui.
un être qui s'est voué à quelque chose de très noble,
oui,
à savoir l'avenir de l'humain.
Oui.
Quand vous êtes à Rome et que, franchement, vous allez vous recueillir dans une enceinte, dans un espace avec des gardes du corps, avec tout ce qu'il faut, avec de l'or, en veux-tu, en voilà, que de par le monde, certains
C'est très bling-bling, quoi, c'est ça, c'est ça.
Alors,
votre...
C'est très bling-bling, c'est très machin.
Alors,
en même temps, on vous transmet un message de aimez-vous les uns les autres.
Non, mais je crois qu'Alain de Lamorandais a compris votre question, on va lui donner quand même le droit de réponse.
Merci. Bah, écoutez, quand j'ai vécu 7 ans à Rome, donc j'ai été envoyé là-bas tout jeune, et j'étais, comme vous, un peu choqué au départ. Notamment Saint-Pierre de Rome, etc. Le pape, c'était Pie XII, arrivait en sedia gestatoria. Il y avait tout un espèce de folklore de style oriental. Et puis j'ai vu tout d'un coup ce peuple italien se mettre à danser de joie, applaudir et tout. Et je me suis dit, c'est l'opéra. C'est l'opéra de l'Église. Bon, c'est une autre culture qui n'est pas de l'austérité romane comme nous avons souvent en France. Et puis j'ai pensé récemment, j'étais scandalisé par le capital de l'Église orthodoxe grecque, puisqu'on parle sans arrêt de la dette de la Grèce. Et je me disais toujours, mais comment cette Église, qui ne paye pas d'impôts, peut-elle être assise sur son trésor? Et j'ai eu indirectement une réponse en entendant un économiste l'autre jour à la télé, qui expliquait, mais le patrimoine de l'Église orthodoxe en Grèce est un patrimoine de terre, de terrain, etc., qu'elle ne peut pas vendre, en fait, parce que ce serait livrer tout à la corruption des bétonneurs. Donc, transposant cette idée, tu es pape, tu es le responsable de Saint-Pierre de Rome, qu'est-ce que que tu fais du Vatican de ses richesses? Moi, j'ai pas de réponse.
Bah, écoutez, on va essayer de l'appeler, mais je suis pas sûr qu'il y a...
Patrimoine mondial.
Oui, non, mais bien sûr. Mais on comprend aussi que ça ait pu choquer Armando.
Ah oui,
ça,
je
vous rassure, Armando, Alain Lamorandé est très sobre et il n'a pas de chevalière avec des rubis ou je ne sais
et
quoi.
J'ai accueilli pendant 10 ans dans les locaux de la petite chapelle près de la gare de Lyon des SDF tous les soirs.
Absolument. Donc, je crois que c'est.
Non, mais l'Évangile, c'est ça d'abord. Il a raison, Armando, de ce côté-là. C'est priorité aux pauvres, ça c'est vrai.
Dernière question, merci Armando. Dernière question avec Juliette qui est avec nous également. Bonjour Juliette.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour Alain.
Bonjour.
Voilà ma question. Est-ce que vous souffrez du manque d'une présence féminine dans votre vie?
Alors, sur le plan pastoral, depuis que j'étais aumônier de lycée, que j'ai fait des chantiers de jeunes, ensuite en ayant été curé de paroisse, j'ai toujours eu des femmes à mes côtés. Mm-hmm. Bon, pourquoi? Parce qu'elles ont une qualité de patience que je n'ai pas, souvent. Et puis, j'aime beaucoup leur intuition. Où je me retrouve un petit peu d'ailleurs, mais elles ont une façon, je dirais, de gérer parfois les conflits avec une douceur qui n'est pas la mienne. Bon, donc c'était une complémentarité. Bon, ça c'est sur le plan pastoral. Maintenant, je suis à la retraite depuis un an. Est-ce que ça me manque sur le plan privé? Honnêtement, non. Faut quand même que, voilà, non, je m'endors pas tous les soirs en me disant ah si j'avais une jolie femme à côté de moi.
Jolie.
Oui, jolie quant à faire.
Tant qu'à faire, oui. Et puis surtout que vous seriez peut-être un très vieux couple et puis vous vous entendriez peut-être plus du tout, donc au fond...
J'ai une infinie admiration pour les vieux couples parce que je trouve déjà qu'un jeune couple qui dure longtemps, c'est pas facile. Mais alors un vieux couple, c'est pour moi le comble de la sainteté.
Merci Juliette.
RMC, quand Brigitte Lahaie fait son show, c'est le Lahaie Night Show.
Et oui, c'est le moment de se quitter. Je vous remercie beaucoup, en tout cas Fatima Aïd Bounois. C'était un plaisir. Merci. De vous découvrir sous un autre jour, ou une autre nuit plutôt. Christophe Médici, merci beaucoup.
Merci,
et
Brigitte.
Puis à très vite, bien
très
sûr.
Vite.
Et quant à vous Trinidad, c'était aussi un grand plaisir de vous découvrir.
Merci.
Et je rappelle votre spectacle Pendant ce temps, Simone Veil. Vous avez accepté de lire pour nous un extrait de J'ai joui de Sarah. C'était un livre qui était sorti aux éditions Anne Carrière. Alors Sarah, c'est sans doute un pseudonyme. J'avais beaucoup aimé ce livre qui est sorti déjà il y a presque une dizaine d'années parce que elle raconte cette jeune femme de 20 ans la première fois qu'elle a joui, et c'est donc Trinidad qui va nous lire tout ça.
J'ai 20 ans et j'ai joui. Y a-t-il de la perversion à en être heureuse et fière? Cette année, rien de plus précieux n'a compté pour moi. Pas même le fait de réussir ma licence de philosophie avec mention bien. Je voulais jouir. J'ai joui. Une aventure qui vaut mieux que bien des saloperies de cette humanité. Peut-être même qu'ainsi j'en ai racheté quelques-unes, sait-on jamais. J'ai 20 ans. Et depuis longtemps, je sais que j'aime le désir, à la folie. Je sais aussi combien mes envies sont fortes. Elles me donnent un vertige qui m'attire et m'effraie à la fois. Depuis longtemps, mon esprit est habité d'images animées. Souvent, trop souvent, mais c'est ainsi. Je vois des corps qui se tendent les uns vers les autres. Des mains glissent sur des peaux. Des doigts enserrent des sexes d'hommes. Ils sont raides, ils sont forts, mystérieux encore. Comment sont-ils en fait? Se ressemblent-ils? À part les longs, les gros, les durs, que sais-je? Leur peau, leur volume, leur puissance. Ils sont là comme des images, pas en sensation, comme inexistants. Sinon dans une tentation impossible à accomplir. Ai-je glané ces visions au cinéma? Dans les magazines de photographie? Dans les musées? Entre les créations des arts nobles? À vrai dire... partout. Ces dérives de conscience me hantent. Elles surviennent parfois lorsque je suis éveillée. N'importe où. Dans le bus, dans la rue, en cours ou dans ma chambre, sur mon lit, sur l'herbe d'un parc, dans le train. Oui, beaucoup plus souvent dans les balancements imperceptibles d'une rame de TGV. Mes lèvres alors se gonflent. Mon souffle m'envoûte. Entre mes jambes, je sens une humidité qui appelle toujours quelque chose que je ne connais pas encore. Suis-je normale? Alors que la plupart de mes copines ont perdu leur virginité depuis parfois des lustres, j'ai attendu l'année dernière pour laisser Eric glisser.
Merci beaucoup Trinidad, c'était très bien.
Merci.
Bravo.
C'était bien lu en plus.
Oui.
Bravo.
Merci beaucoup Trinidad. Et puis bonne nuit à tous.
RMC. Et dire que vous pensiez tout savoir sur les femmes.